Bon, ben, d'abord, je veux dire, effectivement, en dehors de ce que nous avions déjà précisé la semaine dernière, les queues, les transports, etc., mais bon, et toutes ces bandes qui s'organisent plus ou moins bien en faisant du marché noir. Alors, d'abord, le marché, je veux dire, c'est déjà un état enfin, qu'on peut percevoir en y allant, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils ont des piles comme ça, énormes, de billets. Bon, il faut voir que le taux d'inflation en ex-Yougoslavie, s'il continue tel qu'il a commencé cette année, en fin d'année sera de 1 647 000 %. Hein. Donc en fait, cet été, les Serbes ont sorti un billet de 1 milliard de dinars et la plupart des gens se trimballent avec des billets de 10 millions, 1 milliard de dinars, qui représentent trois fois rien, puisque 10 millions de dinars, ça représente à peu près 3 ou 4 dollars. Et puis, en plus, bon, compte tenu de l'inflation qui change, la cotation de la monnaie change toutes les heures. Donc, les gens ne savent pas vraiment exactement. Nous, au moment où nous faisions le marché, 10 millions de dollars, 10 millions de dinars représentaient 1 Deutschmark.
Mais tu achètes quoi avec 10 millions de dinars ?
Alors, attends, j'ai pas tout à fait terminé, parce que maintenant, ils viennent de sortir un nouveau billet, ils ont enlevé 3 zéros, quoi. Hein. Donc, les gens sont avec des billets de 10 millions de dinars et de 10 000 dinars qui ont exactement la même valeur. Hein. Alors, 10 000 dinars, ça représentait au moment où nous y étions 1,8 Deutschmark. Hein. Alors, pour ce prix-là, vous avez un petit peu plus qu'un kilo de riz. Et si vous tombez sur un bon moment et un bon monsieur, un kilo de pommes de terre. Donc en fait, pour 10 000 dinars, c'est-à-dire un Deutschmark 8, vous avez ça. Hein. Étant entendu que les gens, quand ils travaillent, s'ils travaillent encore, ils ont à peu près un revenu de 10 Deutschmark par mois. Donc, bon, on peut vous donner comme ça un exemple de tous les prix qui se trouvent. Alors, par contre, sur ce marché, il y a à la fois, je veux dire, le marché officiel, qui d'ailleurs, était particulièrement fréquenté parce que l'hiver arrive et puis que bientôt, il n'y aura plus de produits frais. Et les gens sont particulièrement inquiets parce que non seulement il n'y aura plus de produits frais pendant cet hiver, mais il ne risque pas d'y en avoir l'année prochaine parce que les semences ont tellement augmenté que les paysans ont décidé qu'ils ne plantaient plus, sauf leur petit lopin de terre pour eux. Donc, en fait, bon, à titre exemplaire, je veux dire, on a vu des semences d'oignons qui représentaient justement 10 millions de dinars. Hein. Donc, il n'y a personne qui peut planter pour cette somme-là. Donc, ça c'est déjà une première. Alors, parallèlement à ce marché officiel, entre guillemets, il y a le marché noir. Donc, de gens qui ont trois piles, un tube de dentifrice, qui leur ont peut-être été apportés par des gens et qui revendent sur le marché noir. Alors, un tube de dentifrice, ça coûte, je dirais, effectivement, à peu près un marque, quoi. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui, effectivement, les achètent. Mais enfin, il y a tout ce marché qui est là. Enfin, ça, c'est une partie de la désorganisation de l'économie et de l'État. Bon, il y a plein d'autres exemples sur la désorganisation, je veux dire, de l'État. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de notre tour, du voyage, quoi. Bon, je ne sais pas si toi, je crois qu'il y avait Rina d'autres choses à rajouter par rapport à ça.
Oui, je voulais reprendre l'exemple donc des cartes de rationnement. Donc, c'est évident que dans cette situation, puisque les gens, s'ils n'ont pas d'économie ou s'ils n'ont pas de soutien, ne peuvent pas s'en sortir, l'État, donc pour voulant donner l'impression qu'il pense à son peuple et qu'il s'occupe de son peuple, a donc émis des cartes de rationnement pour les denrées de base. Mais le problème, c'est que quand on se pointe avec ces cartes de rationnement, on ne trouve pas de denrées à acheter avec. Et quand il y a des denrées à acheter, eh ben, elles sont vendues sans ces cartes de rationnement. Donc c'est ce n'est qu'une image.
C'est une monnaie de singe, quoi. Personne l'accepte.
C'est une monnaie de singe. Je crois que d'après nos amis, et on les croit volontiers quand on a vu ce qu'on a vu, même le peu de temps que nous étions là-bas, il n'y a aucune organisation intelligente de l'économie et de la vie. C'est le chaos complet. Le pays est aux mains de cliques armés, aux mains de différents groupes de mafias qui ne cherchent qu'à profiter de la situation. Et c'est pour ça, précisément, qu'il y a une grande inquiétude de ce qui va se passer après. Il n'y a pas, en fait, malgré ce grand mythe héroïque serbes qui résistent contre l'envahisseur musulman, ou de ce grand mythe croate qui daterait de l'époque byzantine et qui aussi résisterait contre tous les ennemis de la terre, il n'y a pas vraiment d'espoir de voir renaître un État dans son sens intelligent et organisé.
Sauf le risque quand même encore plus grand d'un risque d'ultra-droite. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, bon, il semblerait qu'il y aurait une opposition assez forte au gouvernement de Milosevic, qui serait encore plus à droite que lui, hein, puisque il y a eu des sondages de fait sur et la volonté d'un certain nombre de personnes de changer de gouvernement. Mais en fait, ces sondages montrent qu'il y aurait une tendance de 30% de la population qui voterait plutôt ultra-nationaliste.
Mais tu parlais de bande armée et de bandits, enfin, toi François, c'est ton mot, ça veut dire quoi? Que finalement, l'ennemi auquel on va faire face les gens, ce n'est pas seulement l'armée officielle organisée d'un camp ou d'un autre, mais c'est toute une bande de criminels armés qui comptent-ils avoir avec justement ces armées officielles alors?
Il y a un double discours, c'est-à-dire qu'à la fois, le gouvernement serbe dit « nous ne sommes pas en guerre », nous ne faisons que répondre, je dirais, à l'agresseur qui est évidemment l'autre. Et en même temps, il y a toute une collusion entre le gouvernement qui est au pouvoir et des bandes armées. Alors, bon, là, on nous a raconté un petit peu comment ça se passe, je veux dire, dans ces atrocités qui sont commises et dont nous entendons parler qu'indirectement. Il y a une première vague qui sont effectivement des groupes paramilitaires qu'on connaît, qui sont déjà répertoriés comme criminels de guerre, qui viennent et qui prennent l'or, l'argent et qui tuent les gens s'ils les trouvent dans la maison. Il y a une seconde vague, je veux dire, mais les gens les précisent, hein, une seconde vague qui vient chercher tous les appareils électroménagers, TV, radio, enfin bon. Et puis une troisième vague de bandes qui arrivent et qui prennent le reste et qui évidemment brûlent les maisons si elles sont encore en état de l'être et puis qui tuent les gens s'ils sont encore dans leur maison. Alors ça c'est disons tout cette espèce de groupe paramilitaire d'anciens repris de justice qui sont ultranationalistes et qui évidemment collaborent avec le gouvernement, puisque on nous a raconté qu'une des femmes qui était chargée de mission auprès du ministre des armées de Serbie vient d'écrire un ouvrage qui d'ailleurs est publié à Belgrade, donc on peut trouver en librairie, et qui raconte la visite quotidienne que faisaient ces gens auprès du ministère de l'armée. Donc ça permet en fait au gouvernement de jouer les médiateurs et de jouer, relativement les non-va-t-en-guerre, mais en fait, il y a une collusion avec ces bandes-là qui font le travail à leur place quand ils ne le font pas, eux.
Mais alors, très concrètement, Rina, comment les gens résistent à la guerre? La semaine passée, on a évoqué vraiment la résistance des femmes en noir en particulier, de celles qui travaillent dans des groupes plus liés à la violence conjugale. Mais je crois que vous avez encore plein d'autres exemples à nous donner de cette résistance, entre autres, qui permet d'échapper aux pressions qui exercent justement tout autour des gens et auxquelles il est difficile de résister quand soi-même on a décidé qu'on n'entrerait pas dans ce type de guerre-là et ce type de nationalisme.
Alors, un des actes de résistance importants, je crois, c'est de refuser la télévision. Ça veut dire de refuser de regarder la télévision aux heures des nouvelles, de refuser de payer ses taxes TV et radio. Et pendant toute une période, il y a eu une télévision alternative qui passait dans la rue à la même heure que la télévision des nouvelles alternatives. Et les gens se réunissaient exprès dans la rue pour regarder cette télévision, ce qui était en fait un refus de regarder les nouvelles officielles qui ne font que distiller de la haine. Ça, c'est un type de résistance. Malheureusement, je crois que ces émissions ont arrêté aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres sortes de résistance. Si on prend, par exemple, la ville de Brčko, c'est un témoignage qui nous est fait par Nada, qui est elle-même originaire de Dubrovnik, qui a 77 ans. Et dans cette ville, il y a une histoire assez particulière qui nous est racontée. C'est une petite ville qui est passée de main serbe, puis à main musulmane, puis de nouveau à main serbe. C'est une petite ville qui est divisée par une rivière, où d'un côté il y a une majorité plutôt serbe et de l'autre côté une majorité plutôt musulmane, mais bien sûr avec une minorité du camp adverse. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand cette petite ville est passée dans les mains, entre guillemets, de l'ennemi, les gens ont été solidaires entre eux. Et alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont caché les familles, soi-disant de l'autre camp, ils ont pris leur bétail, ils ont dit que c'était leur bétail à eux, puis ils ont continué à s'en occuper, puis ils ont pris leurs terres, puis ils ont continué à s'en occuper. Puis quand c'est repassé dans les autres mains, ils leur ont rendu tout ça. Ils leur ont rendu leur bétail et leurs terres. Et aujourd'hui, donc ils continuent à se tirer dessus, par-dessus cette rivière, mais ils ont une mode de résistance bien à eux, c'est qu'ils tirent en l'air. Donc pendant toute la matinée, ils tirent en l'air en essayant de faire le moins de victimes possible. Et puis l'après-midi, ils vivent en bonne mœurs, ils se demandent des nouvelles de leur famille réciproque. Et toute leur difficulté, justement, c'est de résister à ces milices, parce que suivant si une milice nous visite ou si une autre milice nous visite, il faut changer de langage, il faut parler différemment, puis il faut leur parler pour pas avoir l'air de refuser de collaborer avec eux, mais en essayant de leur donner le moins d'informations possible concernant les autres.
Oui, alors ça revient beaucoup dans les témoignages des femmes. Je veux dire, elles racontent ça, cette difficulté de la police du langage, quoi. Et là, je reprends un extrait d'un entretien. Elle dit, en fait, bon, tous les gens cèdent pour survivre, hein. Bon, les différentes sortes de police ou de milices viennent pour vous interroger, hein. Donc, il faut être extrêmement bref et ne pas donner d'informations qui pourraient nuire à quelqu'un de l'autre camp, hein, de l'autre côté, dit-elle. Et dans certaines situations, vous devez complètement changer votre langage. Par exemple, elle avait une de ses voisines qui avait l'habitude de ponctuer toutes ses phrases par « mon fils a fait ci, mon fils a fait ça », enfin bon, une sorte de grande admiration qu'elle avait pour son fils, et puis tout le monde lui dit « mais il ne faut absolument pas que tu parles de ton fils ». Je veux dire, parce que c'est clair qu'il y a un de ces miliciens, il va venir et puis il va te demander « mais il est où, votre fils ?» Hein. Et effectivement, ben, elle n'arrivait pas à corriger ce tic de langage qu'elle avait, qui n'était pas seulement un tic de langage, qui était un truc affectif, quoi, qui la reliait à son fils. Et bon, ben, ça n'a pas manqué, c'est-à-dire que la milice lui a demandé « mais il est où ?» Je veux dire, « votre fils ?» Et donc là, elle était complètement coincée. Et elle s'en est sortie que grâce à ses voisins qui ont pris la parole à sa place. Mais donc, il y a toute cette police du langage. Les gens essayent de donner le moins possible d'informations qui pourraient nuire à leurs voisins, à leurs amis. Ça, c'est une forme de résistance que les gens ont à la base, quoi.
Alors, je crois que ce qui couronne un petit peu tous vos récits, c'est ce que vous avez vécu, vous, quelque part, concrètement. À un moment donné, vous avez eu l'occasion de faire une sorte de synthèse de tout ce que vous aviez entendu en le vivant vous-même, du moins une certaine partie, évidemment, dans votre chemin de retour jusqu'à Genève, dans le train que vous avez pris pour rentrer à Genève. Vous avez été confronté à la peur des gens, à ces fameuses bandes, etc. Enfin, tout ça, tout à coup, l'avez-vous expérimenté. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce chemin de retour, qu'on comprenne un peu comment... On le vit très de l'intérieur, au-delà des témoignages, bien sûr, très importants que vous avez reçus. Remue Ménage, une femme Radio Zone 93.8, et c'est toujours le témoignage de deux femmes en noir de Genève, Françoise Bloch et Rina Nissim, qui sont allées passer une semaine à l'invitation du groupe des femmes en noir de Belgrade, en ex-Yougoslavie. Elles témoignent des femmes qu'elles ont rencontrées, elles témoignent de ce qu'elles ont vu elles-mêmes en se baladant, en étant à Belgrade. Et puis, là tout de suite, elles vont vous raconter leur chemin du retour. Parce que le périple en train, ça n'est pas rien, c'est toute une aventure, effectivement. Et nous conclurons avec le projet qu'elles ont décidé de soutenir là-bas, à la demande des femmes en noir, et que nous pourrons soutenir ici, depuis Genève. Ne vous étonnez pas d'entendre quelquefois l'idée de la semaine dernière. À l'origine, ce témoignage était prévu comme devant être diffusé en deux parties. Eh bien, nous avons décidé de n'en faire qu'une seule émission.
qu'on l'a vécu au chemin du retour, mais en fait, on l'a vécu sans s'en rendre compte au chemin de l'aller, quoi. Mais bon, il se trouve qu'à l'aller, on avait dans notre compartiment des gens qui étaient avertis, auxquels c'était déjà arrivé. Et comme il n'y avait pas d'électricité dans le compartiment, on ne s'est pas rendu compte qu'ils étaient en train de verrouiller la porte, quoi. Mais donc, en fait, on a dormi sur nos deux oreilles, ignorant complètement qu'il y avait un tronçon du chemin dans la Hongrie qui était pris justement par une de ces bandes qui en fait rapine et détrousse les gens dans les trains. Donc à l'aller, on s'en est pas rendu compte. On nous l'a raconté seulement quand on s'est réveillé et que le douanier yougoslave, hongrois d'ailleurs, ne pouvait pas rentrer dans le compartiment parce que le compartiment était verrouillé avec une chaîne, un verrou, etc. Alors au retour, bon, on était un peu avertis, on avait beaucoup moins de choses puisque tout ce qu'on avait emporté, c'était plutôt pour nos amis. Donc on venait avec des bagages très allégés. Mais bon, il y avait ce climat, je veux dire, les gens ont cette solidarité entre eux, qui est de s'avertir qu'en fait, et puis ils ont déjà fait le voyage plusieurs fois, puisque nous étions les seules européennes de l'Ouest, entre guillemets, dans ce compartiment, tous les autres passagers étaient des Yougoslaves, et surtout, l'autre particularité, c'est que nous étions trois femmes seulement dans tout le wagon, hein, dont une femme serbe qui vit en Suisse depuis un certain nombre d'années et qui avait un certain âge et qui était complètement terrorisée à l'idée que, d'une part, on allait évidemment vivre cette scène qu'elle vit à chaque fois qu'elle fait le voyage, et d'autre part, que comme en plus on n'était que des femmes, on allait vraiment se faire agresser doublement. Alors bon, Rina, elle essayait d'ouvrir, on ouvrait le rideau pour voir où on était, elle nous obligeait à le fermer. Bon, on sentait qu'il y avait une sorte d'angoisse, de peur, comme ça, qui émanait de l'ensemble du wagon. Les gens se parlaient, en yougoslave, évidemment, puis il y en avait un qui parlait anglais. Alors, à un moment, on lui a dit, mais écoutez, arrêtez de terroriser cette femme. Maintenant, on le sait, il faut qu'on se barricade, mais ça ne sert à rien d'en rajouter, quoi. Ah, il nous dit, mais vous ne vous rendez pas compte. D'ailleurs, la police est complètement inefficace. Tout ce pays s'effondre. C'est absolument dramatique. Vous ne vous rendez pas compte du risque que vous encourez. Alors, on dit, mais en quoi encourt-on un risque plus grand que vous? Et là, tout d'un coup, je veux dire, on a senti que... Enfin, toute sa tactique était de nous terroriser, je veux dire, encore plus qu'il ne l'était lui, parce qu'il l'était lui aussi. Hein. Et bon, à un moment, il nous a dit, mais de toute manière, si vous criez, comme vous êtes des femmes, on viendra vous secourir. Alors bon, on a pris toutes les mesures d'usage, on a fermé la porte, etc. Parce que bon, ils ont une clé, donc ça ne sert à rien de mettre simplement le loquet, parce qu'il s'ouvre. Et on a pris toutes les mesures d'usage, et puis on s'est couché. Bon, quand même, finalement, ça vous gagne, hein, même si on a envie de résister à l'envahissement et à cette sorte de psychose de peur, de psychose vraiment qui se dégage, ça vous gagne, donc vous avez un peu plus de difficulté à vous endormir. Bon, bref, on s'endort, et bon, une heure après, la dame me tape sur l'épaule, elle me dit « Ils sont là !» Alors bon, je me réveille, puis elle avait la main sur le loquet, alors que la porte n'était pas possible d'être ouverte. Hein. On l'avait suffisamment fermée, etc., avec des tas d'aménagements, de sangles, etc. Et puis bon, moi, sur le moment, je ne croyais pas, quoi. Alors, j'ai dit, mais écoutez, arrêtez, parce qu'évidemment, elle n'avait pas dormi. Hein. Je veux dire, il était 3 heures du matin et elle n'avait pas fermé l'œil encore. Et effectivement, je vois le loquet qui se tourne. Bon. Et puis, il y a ce petit jeu à refermer le loquet, à le rouvrir, etc. À un moment, je crie, c'est-à-dire je dis, bon, stop it, puis vraiment suffisamment fort, en me disant, ça va les faire fuir. Effectivement, ça les a fait fuir, mais personne n'est venu. Tout le monde est barricadé dans son compartiment. Donc, ces messieurs, on pense que ce sont des messieurs, d'ailleurs, en fait, on ne sait pas, parce que personne ne les a vus, hein, je veux dire, passent, rapinent, je veux dire, personne ne réagit. Tout le monde reste enfermé dans son compartiment, et dès qu'arrive la deuxième ville fatidique où généralement ils descendent donc, et puis on les entend parler dans le couloir et tout, personne ne bouge. Et là, tout le monde sort de son compartiment dans le couloir et discute sur l'incapacité totale de l'État à faire arrêter ces bandes armées. Alors évidemment, nous, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est mais pourquoi en fait tous les gens, ils savent que c'est entre ces deux villes-là, pourquoi ne sortent-ils pas tous en même temps de leur compartiment? Parce que en fait, ils ne font ce type de rapine que dans les wagons couchettes. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils misent sur le fait que les gens dorment et sont terrorisés. Et quand on propose un type d'organisation collective qui n'est pas, je veux dire, on va pas prendre un bazooka pour descendre ces gens, quoi. Hein. Simplement leur montrer que, en fait, on peut aussi être actif face à une situation comme celle-ci. Ils vous regardent avec des yeux ronds et ils vous disent, c'est pas à nous de faire ça, c'est à la police. Donc on voit très très bien bon, comment ce type de fonctionnement se met en place avec une certaine passivité, je dirais presque, et alors évidemment, bon, la complicité, c'est ça qui sort, quoi. Tout le monde est persuadé que le chef de gare, que le chef de train, que quelqu'un est complice. Et c'est vrai qu'il y a une complicité quelque part, c'est évident, puisque ces gens interviennent toujours entre les deux mêmes villes. Mais personne ne bouge.
Il faut rappeler que ce train, c'est un train qui passe donc de l'ouest à l'est et que le mur est toujours bien existant. Le train passe donc par Vienne et puis à travers la Hongrie pour descendre dans le sud vers Belgrade. Et on voit vraiment bien la barrière est-ouest, elle est vraiment évidente. C'est la fin de l'Autriche et le début de la Hongrie. Je pense que la Hongrie a au sud certainement dû être passablement appauvrie par l'appauvrissement de la Yougoslavie puisqu'il devait y avoir beaucoup d'échanges entre eux. Ça, c'est donc un signe évident de cette différence est-ouest. C'est aussi, comme Françoise disait, cette difficulté de s'organiser, c'est quelque chose de vraiment extrêmement frappant. Nous sommes donc dans un train yougoslave. Hein, c'est pas un train autrichien, c'est bien un train yougoslave qui va nous amener et nous ramener de Vienne.
Mais alors, ce qui frappe, c'est que à la fois les gens, dans tout ce que vous nous avez dit comme témoignage, surtout la semaine passée, les femmes en noir par exemple, résistent, même quand elles sont une extrême minorité, face à un poids, entre autres, sur la force du nationalisme. Elles résistent de façon vraiment proche de l'héroïsme, mais au sens vrai du terme, pas dévoyé. Et puis en même temps, ce que vous racontez là, c'est vraiment les gens, c'est la fatalité. On doit accepter de se faire voler, on doit accepter de se faire brûler. Donc, je suppose que de la même façon, ils doivent aussi voir passer les différentes équipes de bandits dont tu parlais, Françoise, tout à l'heure, un peu de cette même façon-là, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ont perdu... Bon, en fait, je ne suis pas sûre que ce soit encore si différent de ce qui se passe ici. On peut aussi se faire agresser dans un train sans que personne ne bouge. Hein. Et je crois que ça doit nous faire apprendre, enfin, nous aider à mieux réagir aussi dans des situations comme celle-ci ici. Hein. Mais en fait, on voit que les gens ont pris l'habitude de ne pas prendre d'initiative. Hein, que l'État, quand il était suffisamment organisé, totalitaire, etc., prenaient les décisions à leur place. Et donc, ils ont perdu l'habitude de s'organiser, même au niveau d'associations, je veux dire, de choses bon, très simples, de la vie quotidienne. C'est vraiment du domaine de l'État. Et là, évidemment, l'État s'effondre. Il n'y a plus d'État, je veux dire. Et donc, les gens sont complètement désarçonnés. Et alors, bon, ce qui est très intéressant aussi, c'est le déni de la peur. C'est-à-dire que quand on leur dit au bout d'un moment, parce que toutes les manifestations concrètes qu'ils manifestent, enfin, c'est effectivement la peur. Hein. Parce qu'ils s'enferment, il ne faut surtout rien montrer, etc. Et quand on leur dit, mais en fait, vous avez peur. Ce qui est en fait une manière aussi de reconnaître qu'on a peur et donc de peut-être avoir envie de s'organiser avec d'autres gens pour lutter contre cette peur. Non, on n'a pas peur. On n'a absolument pas peur. Hein. Donc c'est un phénomène... Bon, qui est singulier, à relier évidemment bon, à l'inexistence de tout mouvement de résistance, je dirais, en Yougoslavie depuis les années 60, parce qu'avant, il y avait d'autres mouvements de résistance qui existaient, mais qui ont été bon, complètement écrasés, je veux dire, par le régime de Tito, quoi.
Cette histoire montre aussi qu'en fait, le pouvoir est dans les mains de ceux qui prennent les armes. C'est-à-dire que dans une situation comme ça, on peut être poussé à se dire « Bon, ben, puisque c'est comme ça, moi, je vais m'armer aussi, puisque c'est ma seule chance pour survivre. Hein. » Mais à partir du moment où on est armé, eh ben, on doit aussi peut-être prendre son camp et décider ben, sur qui on tire, puis sur qui on ne tire pas. Donc ceux qui sont les plus désarmés, c'est donc les personnes qui refusent de prendre les armes, qui continuent à rester des simples citoyens, puis qui continuent à simplement vouloir vivre comme des simples citoyens, mais c'est eux qui se trouvent dans la situation la plus désemparée.
Thank you.
Oui, ben, dans le même ordre d'idées, bon, quand on parlait tout à l'heure de l'appauvrissement de la population, les gens qui sont évidemment les plus appauvris, on est bien donc à Belgrade, dans une région qui n'est pas en guerre. Hein, donc je parle, tout ça est très relatif, parce que évidemment que les gens qui sont les plus appauvris, et voire les plus torturés, les plus soumis à la violence, c'est les gens qui sont dans les zones de guerre. Mais les gens qui viennent justement des zones de guerre et qui sont réfugiés à Belgrade, s'ils y ont des familles et qu'ils ont refusé de prendre leur camp, de choisir leur camp, sont effectivement des gens qui n'ont plus aucune solidarité possible, organique, familiale, etc. Parce que, justement, ils refusent de choisir leur camp. Bon, ça renvoie à ce que disait Rina tout à l'heure sur s'armer pour quoi faire. Donc la seule solution dans ces cas-là, ce serait effectivement une organisation collective. C'est justement ce que ces femmes font. C'est-à-dire s'organiser sur une base collective, pluriethnique, sans avoir à choisir leur camp. Mais évidemment, c'est des voix dissidentes.
Voix dissidentes qui, bien sûr, ont besoin de notre soutien. Vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises la semaine passée, ce qu'elles pouvaient attendre de nous. Et vous, en tant qu'initiatrice du projet Femmes en Noir à Genève, vous vous êtes effectivement engagée auprès d'elles à soutenir un projet très concret. D'ailleurs, projet concret qu'on vous réclamait aussi un petit peu à Genève. Donc finalement, c'est une bonne chose de rentrer avec ce projet. Rina, tu peux nous rappeler quel est ce projet ?
Nous avons donc décidé de soutenir le projet Medica Zenica, qui est un projet qui a commencé donc en Bosnie, dans la ville de Zenica, qui est une ville qui est en siège depuis avril 1993. C'est un projet d'aide aux femmes et aux enfants victimes de violences, avec un premier centre où elles peuvent garder des femmes pendant quelques jours, un deuxième centre où elles peuvent les héberger pendant une période de plus longue durée. Et c'est un projet pilote. Les gens de Sarajevo ont visité ce projet. C'est un projet qui va se démultiplier dans d'autres villes et qui donc accorde une aide par-dessus les nations, donc à toutes les femmes. Et c'est aussi un projet dans lequel on documente ces crimes. Zenica est entre autres le centre où se documentent tous les crimes de guerre de cette période. Donc nous avons donc décidé de soutenir ce projet. Cela veut dire que dans les semaines qui vont suivre, vous allez sans doute voir notre dépliant. Nous continuons donc à être présentes les premiers mercredis de chaque mois sur la place de la... les premiers jeudis de chaque mois sur la place de la Fusterie à Genève. Et vous pourrez trouver notre dépliant là. Je pense que vous le trouverez aussi ailleurs. Néanmoins, je voudrais dire que des autres villes de Suisse et d'Europe, il y a des groupes qui aident également Zagreb, où il y a également un centre pour les femmes victimes de violences qui vont également visiter les femmes dans les camps. Et je crois qu'il est aussi important de soutenir le groupe de Belgrade et les groupes de plus petites villes qui, comme dans ces grandes villes, essayent de manifester leur refus de la guerre et leur solidarité avec celles qui en souffrent le plus, qui en sont les victimes.
Très concrètement, donc ça veut dire que d'une part, vous avez besoin du soutien financier des gens, parce que maintenant, ces projets nécessitent de l'argent pour être viables, et d'autre part, qu'on continue à manifester notre soutien moral et notre présence, et de rappeler, comme vous le disiez, qu'on n'oublie pas, malgré la main d'autres choses qu'on apprend chaque jour. Donc, les manifestations continuent tous les premiers jeudis du mois, à Genève, à la place de la Fusterie, c'est dans d'autres villes aussi. Tu peux peut-être répéter l'heure, Rina, aussi, ou François ?
Ouais, c'est à 18h15. Nous faisons donc... maintenant, nous avons pris un peu une autre modalité, c'est-à-dire que nous avons demandé aussi à des artistes genevoises de venir faire part de leur art, soit de la musique, soit de la danse, soit une animation un tout petit peu. Donc on reste un peu moins silencieuse que nous l'étions auparavant. Et puis je tenais à rajouter quand même que si nous avons mis tant de temps à élaborer ce projet, c'est que nous voulions qu'il soit effectivement, bon, d'abord sur le territoire de la Bosnie, parce qu'actuellement c'est la Bosnie qui souffre le plus des conséquences de la guerre et qui risque d'en souffrir encore un moment, je veux dire pendant très très longtemps, parce que c'est toutes des blessures qui sont, non seulement les gens sont expulsés de leur territoire, mais en plus ils ont subi des violences extrêmes, et on l'a vu récemment dans un reportage fait sur Sarajevo, il y a des blessures qui ne sont pas systématiquement visibles, mais qui vont laisser des traces très très longtemps. Donc nous avons mis un certain temps à pouvoir arriver à être en contact avec ce projet qui, en fait, n'est pas atteignable. On ne peut pas, Rina l'a dit la semaine dernière, on ne peut peut pas aller à Zenitsa, sauf avec les convois qui sont effectivement spécifiques pour apporter l'aide à ces gens. Donc nous avons mis un certain temps à l'élaborer, à le trouver, ce projet. Mais maintenant, on l'a et on tient vraiment à montrer que depuis le début, on voulait avoir ce projet, un projet à soutenir concrètement. Et maintenant, on l'a. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de gens qui nous aideront à soutenir ce projet.
En plus des rassemblements, donc les premiers jeudis de chaque mois, nous proposons une réunion ouverte les troisièmes vendredis de chaque mois au centre de loisirs des Astères, qui est une occasion pour nous rencontrer et puis essayer de discuter de la suite, de comment nous allons essayer de tenir le coup, même si ce conflit devait durer très longtemps.